Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire plusieurs textes maintenant qui seront donc des éléments que nous reprendrons dans la prédication ou qui soutiennent la prédication. Et nous commençons par un texte dans 1 Timothée 2, 5 à 8. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Voilà des paroles de l'apôtre Paul, inspirées par l'Esprit de Dieu. Lisons un deuxième texte dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux au chapitre 9. Les versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenus une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Et nous lirons encore deux textes que vous avez peut-être par cœur, ou que je vous encourage à avoir par cœur, c'est chaque fois un verset. Le premier se trouve dans Actes 4, 12, et il parle de Jésus-Christ. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, bien entendu, en lisant le contexte, c'est Jésus-Christ. Et dernier texte, aussi un texte que l'on connaît souvent par cœur dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et le verset 6. Jésus dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jusqu'ici, les lectures de la divine parole de Dieu. Si Christ n'existait pas, il n'y aurait pas de salut. Si le Saint-Esprit n'existait pas, il n'y aurait aucune compréhension des Écritures possible. Mais ils existent. Gloire à Dieu! Et nous nous réjouissons ce matin de parler de Christ et d'être conduits et bénis par l'Esprit. Dans cette année qui marque le 500e de la Réforme, nous sommes heureux d'y faire référence ensemble pour parvenir au fondement du salut. Le salut, c'est le centre de ces cinq vérités remises en valeur lors de la Réforme et que l'on appelle les solas. La sola scriptura indique la seule référence, c'est le mot qu'on peut retenir par rapport au sola scriptura, la seule référence fiable, le seul fondement, la seule autorité en matière d'explication du salut. C'est l'écriture, la Bible, qui est la norme universelle pour tout. La sola fide indique le moyen pour saisir le salut. Ça, c'est ce qu'on peut retenir, sola fide, moyen de saisir le salut. C'est par la foi seule que nous saisissons le salut. Les œuvres n'y contribuent pas, elles en découlent. La sola gratia indique le moyen utilisé par Dieu pour accorder, le moyen pour accorder le salut. C'est par la grâce seule. Le solus Christus indique l'auteur, c'est vrai que c'est aussi le moyen, mais l'auteur est le seul médiateur pour le salut, c'est Jésus-Christ aussi devenu homme. Et le dernier de ces solas, c'est le soli deo gloria, qui indique le but, la raison du salut. C'est pour la gloire de Dieu, parce que tout est centré sur Dieu. Hein, comme je vous l'ai déjà dit, et j'aime le répéter, si quelqu'un cherche le centre de l'univers, ce n'est pas la terre, ni le soleil d'ailleurs, c'est Dieu. C'est le centre de l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler du solus Christus, Christ seul, Jésus-Christ, le seul médiateur. Et Christ a reçu un prénom lorsqu'il est né. Comme vous d'ailleurs. Ils ont tous reçu un prénom. Et c'est un prénom à un lien avec qui il est. La signification de ce prénom indique son œuvre. Ce prénom, Dieu l'a choisi. Et il l'a demandé par l'intermédiaire d'un ange à Joseph, le père adoptif, de le lui donner. C'est ce qui écrit dans Matthieu 1, les versets 20-21 que je vous lis. Comme il y pensait, donc c'est Joseph, « Voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est par lui, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus veut dire « sauveur ». Et c'est le seul qui sauve son peuple du péché. Jésus veut dire sauveur, et c'est le seul qui sauve son peuple du péché, comme l'arche de Noé était le seul refuge des hommes pour être sauvé. Donc Jésus veut dire sauveur, c'est le seul qui sauve son peuple du péché, comme l'arche de Noé était le seul refuge des hommes pour être sauvé du déluge. Jésus est le seul sauveur. On l'a vu tout à l'heure, acte 4, 12, hein, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce sauveur, Jésus-Christ, est aussi le rédempteur. Il est écrit en référence au Seigneur Jésus-Christ dans Éphésiens 1, 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Bon, qu'est-ce qu'un rédempteur ? On parle de termes, il faut les connaître, évidemment. Qu'est-ce qu'un rédempteur ? Eh bien, un rédempteur, c'est une personne qui paye le prix pour libérer quelqu'un de l'esclavage. Ça, c'est un rédempteur. C'est une personne qui paye le prix pour libérer quelqu'un de l'esclavage, qui agit pour sauver quelqu'un de la misère, si vous voulez. Et Jésus a payé le prix total pour libérer de l'esclavage du péché. Jésus a donné son sang, sa vie en rançon pour libérer ses élus, son peuple, son troupeau, ceux qui forment son corps spirituel. Et Jésus est le seul juste et parfait qui est capable de payer de son sang pour libérer de l'esclavage du péché. Toute personne qui a commis un seul péché en est en fait esclave. Et ne peut ni payer pour sa propre libération, ni pour celle des autres. Vous savez, Job, vous connaissez Job dans la Bible ? Il était accablé par ses amis, et il était conscient de son péché. Et il s'écrit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il savait qu'il avait besoin que quelqu'un paye à sa place. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. » Il avait besoin que quelqu'un paye pour lui, et nous en avons aussi besoin, car nous n'avons pas les moyens de payer la dette de nos péchés, mais Jésus-Christ le peut. Et ce rédempteur, Jésus-Christ, est aussi appelé médiateur. Hébreux 12, 24 nous parle de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'un médiateur ? Bon, il y a des fois des médiateurs à l'école, ça arrive. Qu'est-ce qu'un médiateur ? Eh bien, un médiateur, c'est une personne intermédiaire entre deux parties. C'est une personne intermédiaire entre deux parties, en désaccord, en conflit, en opposition, et qui a pour but la réconciliation. Ça, c'est un médiateur. Un médiateur, c'est une personne qui est intermédiaire entre deux parties, en désaccord, en conflit, en opposition, et qui a pour but la réconciliation. Et c'est lui, ce médiateur, qui construit et maintient un pont entre les deux personnes et réconcilier. C'est ça un médiateur. Et Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous savez, les hommes ont rejeté Dieu, leur créateur, qui leur a mis une loi dans leur cœur. Donc les hommes l'ont rejeté. Et à juste titre, Dieu est en colère contre les hommes. Alors non pas une colère passionnelle, une colère en fait de justice. Dieu est parfaitement saint. Il ne tolère aucun péché. Et si vous allez devant Dieu avec un seul péché, vous êtes foudroyé, vous êtes pulvérisé. Parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, il y en a beaucoup question dans l'Ancien Testament, mais Hébreu, dans le Nouveau Testament, il fait aussi allusion très clairement. Hébreu 12, 29. Donc, s'il est impossible qu'un homme pécheur se présente devant Dieu, il a besoin d'un médiateur qui puisse se présenter devant Dieu et qui puisse être en contact avec le Tout-Puissant sans être terrassé. Et nous allons ce matin voir les caractéristiques de ce médiateur. Nous verrons dans un premier temps la personne de ce médiateur, ce qu'il doit être pour pouvoir être ce médiateur. Ensuite, nous verrons que ce médiateur est actif pour rendre la médiation possible. On parlait du pont construit par son œuvre pour que la réconciliation soit possible. Et nous terminerons pour souligner que ce médiateur est unique, qu'il n'y en a pas d'autre, que c'est le seul. Commençons par rencontrer celui qui a les capacités pour être le médiateur entre nous les hommes pécheurs et le Dieu saint. La personne du médiateur, c'est notre premier point. Donc cette personne devra représenter les hommes devant Dieu et représenter Dieu devant les hommes. Alors, on va utiliser régulièrement un terme qui me semble important de comprendre dans ce contexte. Et ce terme, c'est « représenter ». Parce qu'il peut vouloir dire plusieurs choses, ce terme « représenter ». Le dictionnaire dit que « représenter » veut dire « agir au nom ou à la place de quelqu'un, tenir la place de quelqu'un, agir en son nom, en vertu d'un droit qu'on a reçu. » Et le synonyme pour être « remplacé ». Représenter, synonyme pour être remplacé. C'est vrai qu'il est aussi possible de comprendre représenter comme étant envoyé, comme un ambassadeur qui ne remplace pas mais qui transmet les paroles de quelqu'un d'autre. Alors ce matin, lorsque je vous parlerai de représenter, il ne s'agira que de la première compréhension, qui est de remplacer, de prendre la place de, et non pas seulement d'être un ambassadeur. Donc quand je parle de remplacer aujourd'hui, ce n'est pas juste être un ambassadeur, c'est donc de pouvoir prendre la place de. Donc pour cet enseignement, représenter, c'est remplacer. En un sens, être celui qui est représenté. Ok ? Comme ça on sait de quoi on parle ensemble. Donc voyons ce qu'il faut pour représenter les humains. Eh bien, pour nous représenter, il faut que ce médiateur soit un humain créé à l'image de Dieu. Cela ne peut être ni un ange, ni un animal, ni quoi que ce soit d'autre. Il doit être un être humain. Jésus est né d'une femme. Il est venu au monde comme chacun d'entre nous suite à l'accouchement d'une femme. Cette femme s'appelle Marie, vous la connaissez. Qui n'a rien de plus au niveau de capacité divine que nous, d'autre que le privilège d'avoir porté Jésus en son sein. Et Jésus a grandi, a vécu les difficultés et les limitations humaines comme nous. Donc notre médiateur doit être humain, Jésus est humain. Ok ? Pour représenter, donc pour être celui... Donc, c'est être celui qui est représenté. L'origine humaine, le premier de qui nous sommes engendrés, c'est qui ? C'est Adam. Même Ève est sortie d'Adam. Adam est le type de celui qui devait venir, selon Romains 5, 14. Le représentant est donc un homme et non une femme. Le médiateur, pour nous représenter totalement, doit donc aussi être un homme. Notre médiateur doit être un homme. Jésus est un homme. Troisièmement, nous savons qu'il n'est pas possible de s'approcher de Dieu avec un seul péché. L'Éternel est totalement parfait, immaculé, sans péché, saint et pur. Il est donc nécessaire que notre médiateur soit un homme sans péché. Sinon, il ne peut pas entrer en présence de Dieu pour nous représenter et défendre notre cause. Comprenez ? Et il est dit dans Hébreux 4:15 que Jésus a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Et même encore ailleurs, Pierre, qui a vécu quelques années avec lui, dira ceci dans 1 Pierre 2, à partir du verset 22, en parlant de Jésus-Christ, « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Notre médiateur doit être un homme sans péché. Jésus est sans péché. Pour représenter les hommes devant Dieu, il faut un homme sans péché pour avoir l'accès auprès de Dieu. Jésus, donc, peut être ce représentant de l'homme auprès de Dieu. Alors, j'espère vous avoir convaincu que c'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, il faut aussi l'autre partie. Il n'est pas possible d'entrer en médiation si on ne le représente que d'un côté. Donc, que faut-il pour représenter Dieu ? Eh bien, dans l'autre sens, pour que Dieu soit représenté devant les hommes, le médiateur doit aussi avoir quelques caractéristiques. Nous savons que Dieu connaît tout. Il peut tout faire ce qu'il veut. Il est parfaitement sage. Il est totalement juste. Il est rempli de miséricorde. Il est complètement imprégné d'amour et absolument indépendant. Ça, c'est Dieu. Et si quelqu'un veut le remplacer, il doit avoir la même puissance, la même sagesse, la même justice, la même miséricorde, le même amour, la même indépendance que celui qu'il représente. En fait, le médiateur doit avoir la même nature que lui, comme pour l'homme. Et voici ce que Dieu dit de Jésus-Christ. C'est Dieu qui parle de Jésus-Christ, ici dans ce texte, dans Hébreux 1:8. Il est dit, mais au Fils, donc Dieu parle au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. En fait, Dieu il est en train de dire que Jésus est Dieu. Et bien des passages de l'Écriture nous indiquent que Jésus avait la capacité de créer, de donner la vie, et qu'il agissait toujours selon la justice, qu'il maîtrisait même la nature et qu'il était totalement indépendant. Le médiateur de Dieu doit avoir la même nature et les mêmes attributs que Dieu. Ok ? Donc le médiateur de Dieu doit avoir la même nature et les mêmes attributs que Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Pour qu'un médiateur puisse agir, il faut qu'il soit accepté par les deux parties. Et dans notre cas, qu'il puisse satisfaire aux exigences de son rôle représentatif de part et d'autre. Jésus-Christ est vrai homme, donc accepté par les hommes, et il est qualifié pour les représenter. Jésus-Christ est vrai Dieu, donc il est accepté par Dieu, et il a les qualités requises pour le représenter. Telle l'échelle du rêve de Jacob, où le premier échelon est sur la terre et le dernier au ciel. Alors j'espère que vous avez compris maintenant de quel médiateur nous avons besoin. Un médiateur qui est représentatif des deux parties. Et ce médiateur, eh bien c'est seulement Jésus-Christ qui peut l'être. Nous allons réfléchir maintenant un peu à ses actions, à ce qui rend la médiation possible. L'œuvre du médiateur. Nous avons en fait besoin d'une personne qui nous donne les paroles de vérité, afin que nous apprenions véritablement à connaître Dieu, à connaître son œuvre, afin que nous puissions vivre d'une manière digne, selon son dessein pour notre existence, puisque c'est lui qui en est l'auteur. On a besoin de ces paroles de vérité. Nous avons deuxièmement besoin d'une personne qui nous représente officiellement devant Dieu, qui puisse payer le prix de nos transgressions et qui, parce que ces transgressions nous éloignent de Dieu. Si je le dis de manière tout à fait simple, il faut quelqu'un qui nous rende propres pour que nous puissions présenter devant Dieu, devant qui il n'est pas possible de se présenter avec une quelconque saleté. Et troisièmement, nous avons besoin de quelqu'un qui nous guide, qui nous dirige, qui nous défend. En fait, nous avons besoin d'un médiateur prophète qui parle de la part de Dieu. Nous avons besoin d'un médiateur prêtre qui fait l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et nous avons besoin d'un médiateur roi à qui nous pouvons être soumis. Y a-t-il un médiateur qui est prophète, prêtre et roi? Allons déjà parler maintenant du prophète. L'Ancien Testament annonçait un prophète qui devait venir. Dieu l'avait annoncé à Moïse. Et c'est ce que nous lisons dans le Deutéronome. Deutéronome 18, verset 15, où il est dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » C'est Moïse qui parle. Et ensuite, c'est Dieu qui parle, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Il y a eu bien des prophètes après Moïse. Et chacun, à sa manière, annonçait le prophète qui allait venir. Et en parlant de Jésus-Christ, il est dit dans Actes 3, verset 21, c'est donc une explication qui est faite ici par l'apôtre Pierre, et il est dit ceci, « C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Et l'apôtre Pierre d'expliquer que ces jours-là sont précisément là, avec Jésus-Christ. Jésus est le médiateur prophète dont nous avons besoin. Jésus est le médiateur prophète dont nous avons besoin. Il est la vérité. Il a les paroles de la vie. Il est la révélation finale à laquelle un point final a été mis à la mort des apôtres. Il est la vérité. Ses paroles sont des paroles de vie. Il est la révélation finale à laquelle un point final a été mis à la mort des apôtres. Et si on me demande si je connais un prophète encore vivant aujourd'hui, si je vous posais cette question, connaissez-vous un prophète encore vivant aujourd'hui? Eh bien, moi, j'aime répondre, oui, le plus grand, le seul fiable, Jésus-Christ le ressuscité. Et il a mis toutes les paroles dont nous avons besoin par écrit dans la Bible qui est complète. Oui, nous avons un prophète. Il est vivant. Et toutes les paroles dont nous avons besoin nous ont été données. Et Jésus n'est pas seulement prophète, il est aussi prêtre. Alors, juste pour être bien clair, le terme prêtre et sacrificateur sont totalement interchangeables. Donc, si vous avez dans vos bibles sacrificateur, vous pouvez lire prêtre ou inversement, que ça soit bien clair. L'Ancien Testament nous présentait le prêtre, aussi appelé sacrificateur, qui agissait en faveur du peuple devant Dieu et qui parlait au peuple de la part de Dieu. Mais ce prêtre, en fait, devait aussi faire des sacrifices pour lui-même parce qu'il était pécheur comme les gens du peuple. Regardez avec moi dans Hébreux. On va un petit peu être dans Hébreux maintenant, donc ouvrez vos Bibles dans Hébreux 7 et nous lirons les versets 22 à 27 qui nous expliquent ce que je viens de dire, que le prêtre lui-même doit aussi faire des sacrifices pour lui-même. Hébreux 7, à partir du verset 22. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Juste une remarque, cela montre, s'ils meurent, qu'ils sont pécheurs. Okay? Jésus-Christ n'est pas mort à cause de son péché. Jésus-Christ est mort à cause de notre péché. Donc les sacrificateurs mouraient parce qu'ils péchaient. Okay. C'est la conséquence du péché. Hein. De plus, je reprends verset 23, de plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus est le médiateur prêtre dont nous avons besoin. Il nous représente parfaitement devant Dieu et représente parfaitement Dieu pour nous. Jésus est le médiateur prêtre dont nous avions besoin. Il représente parfaitement Dieu et il représente parfaitement l'homme. J'aimerais encore faire une remarque sur le sacrifice lui-même. Le sacrifice offert par les prêtres de l'Ancien Testament n'était pas suffisant pour effacer le péché. Et là, vous êtes dans le livre d'Hébreux, vous tournez vos pages jusqu'au chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et ce, en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est juste grandiose. C'est juste extraordinaire. Jésus est le médiateur sacrifice, si vous voulez, qui a été fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes, dont nous avions besoin. Sa vie sainte et la justification acquise à la croix nous sont comme plaqués sur le croyant. On appelle ça l'imputation. La vie sainte et la justification acquise à la croix, donc la vie sainte qu'il a vécue et la justification acquise à la croix, sont comme plaqués sur le croyant lorsque la foi le saisit. Et nous appelons cela l'imputation. L'obéissance active de Jésus, qui obéit parfaitement à la loi de Dieu, et son obéissance passive, lorsqu'il subit le jugement de Dieu, sont mis au compte de tous ses élus, de ceux qui cherchent la sainteté vécue par amour pour lui. Comme nous l'avons déjà dit au début de cette prédication, Jésus-Christ, notre prêtre, est notre rédempteur, et il n'y en a pas d'autre. Nous n'avons qu'un prêtre. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut absoudre nos péchés. Et il n'a délégué cela à personne d'autre. Personne ne peut te dire « tes péchés sont pardonnés » sinon celui qui est Dieu. Solus Christus. Jésus-Christ seul. Et aujourd'hui, si on me demande si j'ai un prêtre... De nouveau, si je vous demande, est-ce que vous avez un prêtre? Ben moi, je vais me répondre, oui, et il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est le seul. Et c'est lui qui me représente devant Dieu par son sacrifice. Et c'est parce que j'ai un prêtre qui s'appelle Jésus-Christ, qui est parfait, qui est vivant, pour l'éternité, que je peux me présenter devant lui et le prier. Et que je peux aussi me réjouir d'être sauvé. Jésus est le médiateur, prophète, prêtre et également roi. Il est écrit dans Jérémie, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » L'Éternel, notre justice. Dans l'Ancien Testament, David, c'est le roi modèle. Et c'est un de ses descendants qui sera le roi selon Dieu, un roi éternel d'ailleurs. Jésus est descendant de David. Il est descendant légal par Joseph, son père adoptif, et il est descendant de chair par Marie, sa mère. Et concernant son élévation, voici ce qu'il est dit dans Philippiens, un texte que vous connaissez sûrement, Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, après la mort, il est ressuscité et il y a l'ascension de Jésus-Christ. Et donc ceci, ça concerne quelque chose qui s'est déjà passé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ceci va se passer afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est le souverain tout-puissant. Jésus est le médiateur roi dont nous avions besoin. Lui seul peut réellement nous protéger de nous-mêmes. Il a cette capacité en étant ce souverain. Donc lui seul peut réellement nous protéger de nous-mêmes et il est digne d'obéissance et de confiance. Parce que tout ce qu'il demandera comme roi est bon pour nous et juste selon Dieu. Lorsque quelqu'un demande « Qui est le pasteur ?» de l'église où Dieu m'a placé, j'aime répondre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre pasteur. Si quelqu'un vous demande qui est le pasteur de votre église, il vous faut répondre, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre prophète, sacrificateur, roi. Oui, il délègue certaines responsabilités, certaines tâches, il est vrai, à des bergers, mais toujours dans le but que ces bergers redirigent vers lui. C'est lui le pasteur. Et s'il y a des anciens dans l'église, ce sont des assistants pasteurs, si vous voulez. Avec la personne, Jésus qui est homme et Dieu, avec l'œuvre du médiateur, j'espère qu'on commence à comprendre qu'il peut n'y avoir personne d'autre que lui. Mais j'aimerais quand même prendre quelques instants encore pour notre troisième point qui s'intitule « Le seul médiateur ». Nous avons un petit article dans la Confession de foi de 1689, qui est une confession de base pour notre Église, qui dit ceci, « Cet office de médiateur entre Dieu et les hommes n'appartient qu'à Christ, qui est le prophète, le prêtre et le roi de l'Église de Dieu. Il ne peut pas, en totalité ou en partie, être transféré de lui à qui que ce soit d'autre. C'est lui le seul. » Jésus est le seul homme qui n'ait jamais péché. Inutile de demander d'être absous par un pécheur. Il ne peut même pas en être l'intermédiaire. Jésus est le seul qui est homme et Dieu. Pas un homme ne peut le remplacer ici-bas. Il a donné le Saint-Esprit comme consolateur et guide jusqu'à son glorieux retour où il reviendra en personne. Et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus-Christ. Comme j'aime bien vous dire que le peuple descendant physique d'Abraham, ce peuple élu dans l'Ancien Testament, est le berceau de Christ pour sa naissance physique. Eh bien l'Église, vous savez ce que c'est? C'est le palais du ressuscité. Jésus est le seul qui est actuellement à la droite de Dieu pour plaider pour nous. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Il ne dit pas « Venez au travers de ma mère terrestre » ou « Au travers des saints » ou « Au travers de dons spectaculaires » ou « Au travers de quoi que ce soit d'autre ». Non, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est le seul qui peut dire avec force et sans se tromper « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi emprunter un autre chemin? Pourquoi alors emprunter un autre chemin? Jésus-Christ est le seul prophète, prêtre et roi oint pour cet office. Et il est actuellement en activité. Il est vivant. Christ est bel et bien... Christ est tel que rien n'est bon sans lui. Christ est tel que rien n'est bon sans lui. Sans Christ, les bénédictions sont comme une bouteille sans boisson. Vous avez une bouteille, il n'y a rien dedans. C'est bien joli. Ça ne nous donne rien. Eh bien, les bénédictions sans Christ sont comme une bouteille sans boisson. Pourquoi vouloir creuser des puits où on ne trouve pas d'eau alors que l'on a une source abondante et intarissable? Vous imaginez un petit peu, il y a une source, de l'eau sort avec abondance et on ne boit pas cette eau, on va essayer de creuser des puits où il n'y a pas d'eau. Pourquoi chercher ailleurs qu'en Christ? Pourquoi demander la médiation de Marie pour chercher à s'approprier des œuvres ou chercher à s'approprier des œuvres des saints qui appartiennent à l'Église parce que, soi-disant, ils en auraient fait plus que ce qu'il leur en était demandé? Pourquoi chercher des dons spectaculaires? Pourquoi s'accrocher à des personnes particulières qui, en fait, ont autant besoin du salut que nous? Pourquoi vouloir ajouter quand tout est déjà payé et accompli? Pourquoi vouloir creuser des puits où il n'y a pas d'eau alors qu'il y a une source abondante? Eh bien, ce sont notre orgueil, notre trop grande estime de nous-mêmes, notre aveuglement sur notre véritable situation qui nous empêche de simplement accepter et recevoir le salut du seul médiateur qui a tout fait. Moi, je suis certain que c'est ces choses-là, parce que c'est vraiment le péché en nous. Ce sont notre orgueil, notre trop grande estime de nous-mêmes, notre aveuglement sur notre véritable situation. Si nous rendons compte que c'est impossible de nous sauver nous-mêmes et que quelqu'un ne peut nous sauver, eh bien on ira à Christ tout de suite. On ne chercherait aucun autre moyen. Il n'y a qu'un moyen pour être en ordre avec Dieu, pour être réconcilié avec lui, c'est de se confier totalement à notre médiateur et le laisser agir et faire ce qu'il nous dit. Le message qui nous est adressé, vous le connaissez. Mais il est bon de le rappeler. Et il est bon de le rappeler pour nos vies de chaque jour et pour ceux aussi que nous désirons voir venir à Christ. Repentez-vous de votre orgueil et saisissez le pardon bienveillant de la grâce de Jésus-Christ qui nous engage à l'imiter et à vivre humblement à son service. C'est là que nous recevrons un bonheur durable, que nous vivrons à la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu et ainsi de ne pas craindre le jugement qui vient inéluctablement, c'est-à-dire qui vient de façon certaine. En conclusion, j'aimerais commencer par deux pensées qui viennent de personnes qui ont longuement réfléchi à ce sujet, qui disent ceci. La première, la formule « Solus Christus » signifie que Jésus a tout accompli, de sorte qu'aucun mérite de la part de l'homme, aucun mérite des saints, aucune œuvre que nous aurions accomplie ici-bas ou au purgatoire imaginaire, ne peut ajouter quoi que ce soit à cette œuvre salvatrice achevée. En fait, toute tentative d'ajouter à l'œuvre de Jésus est une perversion de l'Évangile, voire n'est pas l'Évangile du tout. Et deuxième pensée, si nous représentons le Christ principalement comme un thérapeute divin, un guide, un ami, un héros, une source de puissance, le réformateur politique, un guérisseur ou tout autre titre à la place de médiateur entre Dieu et les hommes pécheurs, nous lui enlevons le rôle central de sa personne et nous sapons l'essentiel de sa mission et de son œuvre. J'espère que c'est clair maintenant pour chacun que la Bible enseigne deux choses. La première, c'est que notre salut est préparé, accompli et mérité par Jésus-Christ seul et que nous l'obtenons auprès de Jésus-Christ. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Jésus-Christ pour notre salut et qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire que Jésus-Christ entre nous et Dieu. Solus Christus. Mais nous ne voulons pas simplement connaître des vérités doctrinales qui sont bibliques. Nous voulons également les appliquer à nos vies. Qu'est-ce que ça change pour nous, ce Solus Christus? Et voici une comparaison qui nous aidera à voir quelques aspects de ce que cela peut changer dans notre vie, ce Solus Christus. Alors la comparaison, elle est faite entre, d'un côté, le Solus Ego, moi seul, et de l'autre côté, le Solus Christus. Ok? Donc Solus Ego, Solus Christus. Et cette comparaison va nous aider à voir comment vivre, en fait, ce Solus Christus. Alors, Solus Ego, je vis dans un individualisme permissif, puisque c'est moi qui décide. Solus Christus, je vis pour Christ et sa croix est au centre. C'est-à-dire que si je ne vis pas selon sa parole, je vais à la croix de Christ pour lui demander pardon et j'obtiens sa grâce. Et je cherche à vivre selon ce que lui me demande et ce qu'il a payé à la croix. Ensuite, Solus Ego, je recherche le bien-être. Solus Christus, je recherche la sainteté qui plaît à Dieu. Solus Ego, je recherche la guérison de toute souffrance. Solus Christus, je recherche la repentance pour tout péché que Christ a payé. Solus Ego, je vis selon mon intuition. Solus Christus, je vis selon la vérité de Christ. Solus Ego, j'interprète ce qui m'arrive par le hasard. Solus Christus, j'interprète tout selon la providence, comme Christ le fait. Et encore un dernier, Solus Ego, je cherche la satisfaction immédiate. Solus Christus, je vis d'espérance dans la persévérance parce que je vais vers Christ. Je suis sauvé par Christ seul, je vis aussi pour Christ seul. Paul disait, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mon médiateur m'a tout donné, il m'a tant aimé, il me défend, il me prépare une place dans son royaume, je veux vivre pour lui seul. Voilà la conséquence de Solus Christus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Si c'est lui qui m'a sauvé, c'est pour lui que je veux vivre. Si c'est lui qui m'a sauvé, c'est pour lui que je veux vivre. Éternel notre Dieu, j'aimerais te remercier pour ta parole qui nous guide. Merci pour ce verset juste extraordinaire de 1 Timothée 2:5 qui nous soutient dans tout ce que nous avons vu ce matin. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi, Père, Fils et Saint-Esprit, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus homme. J'aimerais te prier, Père, du fond de mon cœur, de permettre que chacun ici se rende compte que c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Et qu'en nous aidant à nous rendre compte de cela, tu nous aides à comprendre que ainsi nous sommes engagés à vivre pour lui seul. Nous avons besoin de ta grâce. Le Solus Ego est encore tellement fort dans nos vies. Mais Seigneur, nous savons que tu es venu aussi pour nous libérer de nous-mêmes, et nous donner la joie d'entrer dans ce chemin de l'imitation, de la ressemblance de Jésus-Christ, notre héros, notre roi, notre sauveur, notre Seigneur, notre frère, notre divin exemple, notre Dieu que nous adorons. Seigneur, sois loué et béni, et que nous puissions être fiers, heureux de l'œuvre de Christ et de qui il est. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.